Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Dans la jungle du numérique. Nous parlons ici de gestion de données, d'archivage numérique, de dématérialisation, d'usage du numérique et de numérique responsable. Je m'appelle Florence Gillet, je suis consultante en gestion et préservation de l'information numérique, facilitatrice numérique responsable. Après avoir travaillé comme archiviste numérique en Belgique pendant 17 ans, je développe aujourd'hui mon activité à La Réunion, où j'aide les entreprises, collectivités et PME à optimiser la gestion de leurs données. Je vous propose ici de questionner le numérique afin d'apprendre à l'utiliser au mieux pour diminuer son empreinte écologique, économique et sociale. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Aurélie Castis. Aurélie est formatrice en pédagogie active et numérique. J'ai eu la chance de suivre une de ses formations cette année sur comment digitaliser ses formations. Et j'avais à cœur de l'interroger sur sa façon d'utiliser l'outil numérique dans son métier de formatrice pour répondre aux enjeux actuels, notamment en termes d'intégration sociale.
Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Ben ouais, super bien.
Écoute, ça me fait super plaisir de faire cet entretien avec toi aujourd'hui, notamment parce que pour moi, tu fais partie des belles rencontres que j'ai faites cette année. Voilà, c'était vraiment très chouette. Et en plus, j'ai eu la chance d'être une de tes élèves. Et donc ça, c'est d'autant plus sympa pour moi de pouvoir aujourd'hui parler de formation avec toi, que j'ai expérimenté la chose avec toi. Voilà. Donc, on va parler de formation aujourd'hui, en particulier de l'utilisation du numérique dans la formation. Et avant, je voudrais bien que tu te présentes. Quel est ton parcours, comment t'en es arrivée à devenir formatrice déjà simplement.
Ok. Alors moi, je viens à la base du multimédia. Mm-hmm. J'ai fait une formation en information, communication et multimédia, qui me destinait plutôt à être chef de projet web. Mm-hmm. Et pour moi, ça manquait de sens. Dès la fin de mes études, ça manquait de sens. Et dans mes valeurs, la pédagogie, j'ai ça dans le sang, dans ma famille, on a ça dans le sang. Et donc, je me suis orientée vers le côté e-learning, puisqu'on avait quand même une partie de la formation dédiée à ça. J'ai exercé donc en tant que chef de projet web et e-learning, scénariste dans la formation à distance, puis à l'université, à accompagner les enseignants à utiliser le numérique pour leurs cours. Avec plutôt quand même un axe pédagogique et pas technologique. Ça a été, je pense, déjà une de mes... Enfin, par rapport à mes valeurs. J'ai beaucoup aimé tout ce qui est nouvelles technologies dès mes études. J'avais été quand même sensibilisée très, très tôt à l'informatique. Mais je voyais bien que ce n'était pas les outils qui allaient... révolutionné. J'ai rencontré des chercheurs qui travaillaient dans ce domaine-là et dont c'était plutôt l'axe. Et puis, j'avais fait un peu le tour de ce que me proposait ce domaine et j'avais envie d'aller plus vers de l'humain. Donc, je faisais déjà de la formation dans le cadre de mon poste, formée aux plateformes de formation à distance, formée aux logiciels. Mais ça me frustrait un peu, c'était parce que la formation logicielle, ça devient vite un peu appliquer une recette, vous faites ça, puis vous faites ça. Et donc j'ai repris mes études en formation de formateur, ingénierie de formation, donc un master à La Réunion. Le but c'était vraiment d'aller vers l'humain, de décoller un peu cette casquette informaticienne, même si je ne l'étais pas, parce que dans le numérique on te cale sur ça. Et lancer mes formations et notamment mes formations de formateur petit à petit.
Et du coup, tu avais déjà touché au numérique, clairement.
Ouais.
Mais comment est-ce que tu en es venue à un moment donné à proposer des formations avec l'outil numérique? Alors, je dis l'outil, mais évidemment, il n'y a pas qu'un seul outil. Avec...
Alors, sachant que j'avais cette compétence-là, quand j'ai lancé mon organisme de formation, de suite, j'ai créé ma plateforme de formation à distance. Ça me semblait tout à fait naturel de proposer à minima, en complément du présentiel, les supports de formation. J'ai été aussi sollicitée encore pour faire de la formation sur cet outil. Donc, ça avait deux fonctions. Et c'est vrai qu'au début, je voulais m'éloigner du e-learning. Je voulais vraiment retrouver le côté échange humain. Et donc, je mettais un peu de côté. Et ce qui m'a fait revenir notamment à proposer des modules de formation à distance, c'est une amie qui un jour m'a dit, mais moi, c'est génial les formations à distance parce que j'ai des enfants, je travaille et je peux, le seul moment que j'ai pour me former moi et continuer d'évoluer, c'est le soir quand les enfants sont couchés, mais par contre, depuis la maison. Et ça a donné un sens différent finalement à la formation à distance et ça m'a permis de revenir sur cette modalité et de voir qu'en le faisant bien, en tout cas comme je l'imaginais, et du coup en le faisant pour moi en fait, je pouvais le faire comme je l'imaginais, ça pouvait avoir un sens humain en fait.
Alors, tu as parlé de la plateforme numérique en complément d'une formation présentielle, puis d'une formation 100% en ligne. En fait, il y a différentes façons d'utiliser le numérique dans la formation. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces différentes façons et peut-être nous apporter un éclairage sur les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles, en fait?
En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis le Covid, formation à distance égale visio, classe virtuelle, visioconférence pour beaucoup, alors que c'est pas le cas. C'est ce qu'on a fait dans l'urgence. Donc, on peut utiliser une plateforme pour avoir un complément de présentiel, c'est-à-dire on fait la formation en présentiel, on met des supports, voire des ressources complémentaires, voire un forum pour que l'apprenant puisse revenir chercher de l'information. Souvent dans les formations présentielles, des formations courtes, on engrange beaucoup de choses et on a besoin d'y revenir a posteriori en fait. C'est donc là, dans mes formations présentielles, l'accès à la plateforme dure 3 mois après la formation parce que c'est ce temps de pouvoir y revenir et soit de relire, soit de réintégrer d'autres choses. On a des formations totalement en ligne. Alors moi, je propose sur des modules en autonomie. L'idée, c'était de pouvoir justement avoir accès quand on a besoin, se former. Donc là, avec des vidéos, des exercices, il n'y a que le tutorat qui se fait en asynchrone, donc pas en simultané. Donc, ce qu'on peut voir sur le présentiel, globalement, c'est qu'on a plus de convivialité, on a plaisir à trouver un groupe, rencontrer de nouvelles personnes. Sur le distanciel, tout en autonomie, ça va être se délester, on va dire, de la contrainte du temps, du rythme imposé et du déplacement. Donc, voilà, comme le disait mon ami, finalement, se former au moment où c'est le mieux pour soi. Et ne pas avoir à se déplacer, ce qui fait quand même un certain nombre de contraintes. La plus grosse difficulté par rapport à ça, c'est que ça demande une très forte autonomie et autodiscipline dans son apprentissage. Et ça, depuis le Covid, j'ai pu voir qu'effectivement, c'était pas forcément très développé chez les personnes, peut-être un peu plus chez les indépendants. Et en tout cas, il faut que le besoin de formation soit clairement identifié par l'apprenant. Et c'est ça qui va être le levier de motivation. J'ai absolument besoin de me former à, et donc je vais m'autodiscipliner par rapport à ça. Ce que je peux proposer maintenant, c'est d'avoir quelque chose de très autonome, mais de rajouter des visios. Parce qu'avec les visios, il y a cet échange humain qui va augmenter l'engagement et la motivation quand même de l'apprenant. Donc ça reste très souple. On cale les visios quand la personne est disponible et ça maintient l'engagement. Et après, on peut avoir un distanciel qui ne va pas être en autonomie, c'est-à-dire on se cale des jours ensemble. Donc là, ça va permettre de diminuer le besoin d'autonomie et d'autodiscipline. Donc là, moi, je propose plutôt des formations en demi-journée, parce qu'une journée, c'est vraiment très dur derrière l'écran. Et donc là, sur une demi-journée où on travaille tous en même temps, on va avoir de la visio, on va avoir des temps en autonomie, mais vraiment avec un planning de vidéos à regarder, d'exercices, c'est assez court, et on va articuler visio et temps en autonomie. Et ça, j'ai testé ça depuis le confinement, ça fonctionne assez bien parce que On arrive à avoir un peu de temps d'échange et vraiment retrouver cette dynamique de groupe. On va avoir des temps en autonomie où chacun va pouvoir quand même avoir une petite marge de comment il veut travailler et d'être en fonction de son style d'apprenant plus en adéquation. Donc ça, je trouve que sur vraiment quand la personne a le bon cadre pour travailler, a un vrai besoin de formation, ce temps de travail en autonomie, on voit que la part de responsabilité de l'apprenant, la part de « moi, je suis apprenant et je veux apprendre », ben, se développe plus. Et donc, on a même une compétence plus forte pour moi qui peut se développer. Donc voilà, du distanciel, mais calé sur des jours. Donc dans ce cas-là, quand je fais des demi-journées, voilà, c'est un peu plus séquencé. Et ça aussi, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir apprendre un peu, retourner au réel de son activité, à son expérience de terrain et se reformer à nouveau. Ça, pour moi, en termes de qualité d'apprentissage et d'intégration, c'est bien plus efficace que 3 jours d'affilée. Par contre, ça demande un engagement plus long et on peut effectivement avoir de la perte d'apprenants au fur et à mesure. Et ensuite, la modalité qui est vaste, mais qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir de l'hybride. L'hybride, donc ça va être mixer le présentiel et le distanciel, mais il faut bien le concevoir pour pas avoir... Le but, c'est d'avoir les avantages des deux. Donc dans l'hybride, juste quelques éléments. Mmh. Moi, je conseille de commencer par du présentiel. Mmh. Le présentiel va permettre de créer la dynamique de groupe, donc et d'avoir cet élément de convivialité qui, en tout cas en France, est vraiment important dans les formations. De présenter l'outil pour enlever tous les freins, toutes les petites questions, etc. Parce qu'il y a besoin de rassurer encore beaucoup. Ensuite, d'avoir du distanciel qui amène ce côté autonomie. Peut-être justement, si on a un peu les moyens de revoir les personnes, de refaire plusieurs présentiels, de le faire graduellement ou par les visios aussi. C'est-à-dire qu'au début, on donne un peu de travail en autonomie, on fait une visio et après, le travail en autonomie peut être grandissant, ce qui va souvent en fonction d'une formation. Au fur et à mesure, normalement, on doit plus mettre en pratique, avoir plus d'exercices. Donc ça va être comme ça, donc rythmé par les visios et avoir un autre présentiel ou un présentiel de clôture aussi, peut-être un peu à distance quand il y a eu, justement pour faire ce retour d'expérience et avoir ce moment de convivialité.
Donc il y a un vrai apport pédagogique en fait, enfin le numérique permet d'avoir un avantage pédagogique quoi, c'est pas juste un outil de plus dans la formation.
Ben, c'est ça en fait pour moi, c'est que s'il faut commencer par la conception pédagogique pour que c'est un impact pédagogique, et en fait c'est pas forcément les outils les plus qui mettent des paillettes dans les yeux qui apportent le plus d'impact pédagogique.
Ouais.
C'est à la fois le numérique et c'est surtout le numérique dans ce qu'il apporte au niveau du séquençage, donc du rythme de la formation. Parce qu'en présentiel, on ne pourrait pas se déplacer pour 1h30 d'échange. Mmh. Donc, on ramasse tout sur des journées entières et ce n'est pas forcément le plus pédagogique.
Et du coup, toi, dans la manière de préparer tes cours, à t'entendre, j'ai l'impression que ça demande beaucoup plus d'investissement que pour une formation en présentiel parce que tu as en fait des outils en plus que tu proposes quand même. Est-ce que tu as ce sentiment-là ou pas forcément?
Alors, en fait, en termes de à la fois préparation... Et du coup, quelque part, retour sur investissement en tant que formateur indépendant, c'est un petit peu différent, mais pas fondamentalement. C'est-à-dire que moi, la préparation, elle se fait de la même manière, c'est la même conception pédagogique, ce qui fait que je peux passer du présentiel au distanciel au niveau de mon scénario sans grande difficulté et que je vais avoir des formations distancielles aussi actives, interactives que des formations présentielles. J'ai des petites adaptations, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire à distance, mais pas de différence majeure, en tout cas sur mes thématiques. Là où ça va prendre un peu plus de temps, c'est sur la création des ressources. Donc, c'est-à-dire que sur une formation présentielle, je vais faire mon diaporama, pour la formation distancielle aussi, et là, je vais rajouter le commentaire du diaporama. Donc, je vais faire une vidéo. Donc ça, ça va me prendre un peu plus de temps, sauf que cette vidéo... je vais pouvoir après l'utiliser la réutiliser plein de fois. Et donc c'est là où l'intérêt du numérique, ça va être sur la réutilisation sans avoir moi à refaire la formation plein de fois.
Oui, c'est intéressant. Mais du coup, alors moi j'ai une autre question qui vient après. C'est donc ça, c'est toi en tant que formateur. En tant qu'apprenant, est-ce que, enfin, on sait qu'il y a différents types d'apprenants. Est-ce que le numérique, ça convient à tous les types d'apprenants finalement?
Alors moi, je fonctionne avec une méthodologie de quatre couleurs qui est proche de la méthode DISC pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que sur les quatre couleurs, il y a une couleur qui est le plus lésée, c'est ceux qui aiment beaucoup les échanges.
Tu peux rappeler peut-être les quatre couleurs?
Alors,
du coup,
donc on a le jeune qui aime beaucoup les échanges, l'informel, la créativité. C'est eux qui vont être le plus lésés. Mais donc, les visioconférences vont être vraiment très importantes et peut-être tout l'aspect ludique aussi qu'on peut proposer. Mais généralement, pour eux, ça reste plus difficile parce que la convivialité est hyper importante. Après, on a les rouges qui aiment aller vite, qui aiment aller droit au but. Un rouge en présentiel, il peut s'ennuyer. Donc, l'avantage qu'il va trouver dans le distanciel, c'est d'avancer à son rythme et de pouvoir accéder peut-être plus rapidement à l'information que lui, il cherche. Le vert va aimer les choses pas à pas, apprendre pas à pas. Il a besoin d'être rassuré, il n'aime pas trop parler devant un groupe. Donc finalement, pour lui, le distanciel, s'il est bien conçu, si c'est bien détaillé, s'il est bien guidé, il va pouvoir le faire à son rythme. Et vu qu'il est plutôt introverti, il ne va pas trop avoir à parler dans un groupe. Et pour le bleu, c'est tout ce qui est structure, logique, théorie. Donc le bleu, le distanciel aussi lui convient bien. Généralement, c'est assez cadré. Donc, alors là, j'ai parlé du style plutôt des apprenants. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc globalement, ça peut quand même, si j'équilibre bien le rythme entre l'autonomie, les visios, donc toute ma conception pédagogique va servir et tout le monde peut fonctionner au niveau de son style, même s'il y en a qui
tout le monde peut s'y retrouver.
Voilà, ouais. Tout le monde peut quand même s'y retrouver. Par contre, après, il y a l'autonomie de l'apprentissage et les compétences numériques. Donc non, je pense pas que c'est fait pour tous les apprenants. Et d'ailleurs, souvent on me demande, oui, mais dans tel domaine de formation, est-ce que je peux faire? Non, ça marche pas. Souvent, pour moi, c'est plus une question de pourcentage de formation qu'on peut faire à distance. Comme je prends l'exemple de la maçonnerie, finalement, il y a toujours des apports théoriques. Comment la méthode pour faire le ciment, on va le faire de manière théorique d'abord. Donc cette partie, elle pourrait se faire à distance. Par contre, des personnes qui sont très peu à l'aise sur le numérique, on va rajouter la complexité. Donc ça va leur demander un effort pour accéder à la formation, plus un effort d'apprentissage. Donc c'est plus l'accès au numérique, les compétences et l'autonomie dans l'apprentissage. Il faut quand même voir que pour apprendre à distance, il faut être aussi à l'aise avec la lecture, suffisamment à l'aise avec la lecture. Donc prendre ça en compte comme des freins qui vont rajouter à la surcharge cognitive, quoi.
Et du coup, comment est-ce que tu fais pour t'assurer justement que les apprenants ont toute la maîtrise nécessaire de l'outil numérique et qu'ils vont pouvoir s'en sortir en fait? Est-ce que tu les testes avant? Comment est-ce que tu
Alors,
fais là-dessus?
Pour mes groupes, généralement, c'est par un échange. Je discute, voilà, voir un peu les pratiques des personnes, ce qu'elles utilisent, voir leur métier. Les études qu'elles ont faites me permettent déjà d'identifier. Globalement, moi, là, je forme surtout des formateurs. Donc, il y a cette compétence-là qui n'est pas, pour tout le monde. Mais voilà, je peux évaluer comme ça. Là, par contre, je commence à travailler sur un plus gros dispositif de formation à distance et on va travailler sur un vrai questionnaire de positionnement. Parce que l'auto-positionnement est complexe. Je vois souvent des personnes qui pensent être à l'aise parce qu'elles ne voient pas tout ce que ça représente. Parfois, il y a des personnes qui utilisent beaucoup un logiciel métier. Donc effectivement, toute la journée, elles sont sur l'informatique. Mais elles ont peu de compétences transversales. Donc on va travailler à la fois sur un test de positionnement et à la fois sur un module pour développer les compétences numériques nécessaires pour suivre une formation à distance.
Ok. Et il existe aujourd'hui déjà des certifications, ce genre de choses-là que tu pourrais demander, tu sais, comme en langue, mais sur les compétences numériques.
Alors, il existe PIX,
Ouais.
justement, c'est dans l'éducation
Ouais.
nationale. Et on va se baser
Effectivement,
sur
ouais.
ça pour
Ok.
construire un test de positionnement.
Ok. D'accord.
Donc, ça pourrait être ça. Mais l'idée aussi, c'est pourquoi l'idée de ce module pour suivre une formation à distance, c'est qu'en fait, on a une formation numérique jusqu'à présent qui était très orientée. J'apprends à me servir d'un logiciel traitement de texte, un logiciel métier. Et en fait, ce que je me suis rendu compte au confinement, c'est que ça développe assez peu cette agilité numérique qui, par exemple, un logiciel de visioconférence, quand on est habitué à travailler sur différents logiciels, on apprend à le maîtriser, en tout cas dans les fonctions simples, sans formation. Et ce n'était pas le cas. Il fallait faire des formations pour des visios. Et en fait, on ne sait pas, c'est ça qui crée une surcharge, c'est que on devrait arriver à repérer des invariants dans les interfaces et du coup à découvrir certaines applications sans formation, notamment les raccourcis clavier, tout ce qui peut faciliter aussi la navigation pour que ça soit plus transparent pour l'apprenant et qu'il puisse se concentrer sur la tâche d'apprentissage.
Ok, et du coup, est-ce que justement dans ta relation avec les apprenants, le fait d'avoir ces formations à distance ou que voilà que le numérique, même dans un complément de formation en présentiel, est-ce que ta relation aux apprenants a changé? Est-ce que ça a modifié quelque chose
Alors, c'est vraiment quelque chose que je me posais, que je me demandais. Le premier accompagnement que j'ai fait à distance au moment des Gilets jaunes, où il y avait vraiment besoin que la personne sente la bienveillance, le cadre rassurant, et j'ai vu que ça passait en fait. Et ensuite, je me suis questionnée sur la dynamique de groupe, et vraiment, quand j'ai transposé ce que je faisais en présentiel dans du distanciel. Donc quand j'ai réussi à mettre de côté tous les paramètres techniques, à les anticiper pour recréer ce qu'il y avait en présentiel, ben, j'ai pu voir qu'on pouvait créer la même dynamique de groupe. J'ai eu une expérience à début d'année, en 3 demi-journées à distance, des gens qui voulaient plus se quitter, quoi.
Ah,
Donc pour moi, ça, c'est
c'est
les signes
génial.
de
Ah,
dynamique. Donc non, en tout cas, je pense pas que ça change de la manière dont on pourrait penser, c'est-à-dire une perte de qualité. Et ce que j'ai pu mettre en place, alors par le numérique et par des outils très simples, c'est le suivi derrière. Et ça, je l'ai mis en place aussi depuis cette année, donc un suivi à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, pour continuer la formation, pour avoir des retours, et ça, c'est pour plus d'impact aussi sur l'apprentissage. Et donc, je crois que finalement, le lien aussi peut perdurer et être plus fort avec les stagiaires, parce qu'on continue pour ceux qui veulent à échanger.
ouais, chouette. Et du coup, si tu as un stagiaire un peu dissipé, à distance, c'est plus compliqué à gérer qu'en présentiel?
C'est beaucoup plus facile à distance. Il y a
Ok.
beaucoup moins de dissipation
D'accord.
parce que du coup, et c'est ce qui va manquer à distance,
Ouais.
c'est le côté informel qui va
Ouais.
manquer, les pauses.
Ouais.
Certains, voilà, on peut le trouver un petit peu dans les jeux que je propose, leur laisser un peu de temps pour cet informel. Mais bon, ben voilà, la fin de travail de groupe, je les rapatrie dans la salle principale, donc
Ouais.
ça prend beaucoup moins de temps. Et globalement, c'est vrai que ça diminue un petit peu les échanges en distanciel. Donc, il faut beaucoup plus que le formateur anime, propose vraiment des activités pour qu'il y ait des échanges. Par contre, l'avantage, c'est que ça diminue aussi les sorties de cadre,
Ouais.
en fait,
Les
parce que les
distractions, ouais.
distractions, voilà, on sait qu'on est limité, que c'est un petit peu moins facile d'échanger.
OK.
Donc, ça, c'est plutôt facilitant.
Ok. Alors, j'avais aussi envie de parler un peu business avec toi, parce que bah, on est quand même, enfin toi, tu es formatrice indépendante, donc clairement, il faut que tu en vives hein,
Ouais.
aussi. Et donc, est-ce que le numérique a eu un impact sur le type d'offre de formation que tu as pu proposer, peut-être en termes de longueur, est-ce que tu proposes des formats plus courts, plus longs, est-ce que tu as pu voir que ça faisait évoluer ton offre?
Alors ça m'a permis effectivement de faire évoluer mon offre et de m'adapter à ce qui se passait. Moi, j'ai créé mes premiers modules à distance, donc en 2018. Donc la première chose, c'est que au moment du confinement, j'ai pu de suite proposer à, beaucoup de contrats, proposer à mes clientes de basculer en distanciel.
Ouais, t'étais prête quoi. Ouais.
J'étais prête, donc ça a été déjà très confortable.
Ouais.
Ensuite, donc j'ai une banque de ressources de vidéos déjà là, qui me permet soit de les rajouter, de les offrir pour ceux qui sont en présentiel, de proposer à n'importe quel moment à une personne qui est pressée, qui ne veut pas attendre une prochaine date, de se former en distanciel. J'ai pu proposer aussi voilà, des formations hybrides. Et effectivement, ça m'a amenée là à proposer maintenant des webinaires qui sont sur la pédagogie active. En fait, j'avais une formation de 3 jours. C'est compliqué en fait pour les formateurs indépendants de se libérer 3 jours. Parfois 3 jours, ben, ça fait beaucoup d'outils, beaucoup de jeux qu'on n'arrive pas forcément à digérer. Donc là, le but, c'est de faire 2 heures par mois où on découvre 2-3 jeux qui vont être par rapport à une thématique assez large comme les brise-glaces, l'accompagnement au changement, l'intelligence collective, et qui vont permettre de faire ça à côté de son activité. Pour moi, c'est possible puisque je le fais depuis chez moi.
Ouais.
C'est, me déplacer, louer une salle, etc. juste pour 2 heures, en présentiel, c'est très compliqué. Et notamment, j'ai eu aussi une personne qui devait suivre une formation qui a eu le Covid. Et vu que j'avais cette possibilité que toutes mes formations, en fait, elles sont déjà présentes à distance, ben là, on a fait un hybride improvisé avec une visio, un peu de formation à distance, et je crois qu'elle a eu un autre imprévu, donc en fait elle a suivi 2 jours à distance et la 3e journée en présentiel.
Ok, et donc ça t'a apporté aussi des nouveaux clients, je pense notamment au-delà de ta zone géographique imposée, hein, parce qu'ici en plus on est sur une île, donc c'est encore plus, la zone est vite réduite, j'ai envie de dire, mais donc...
Alors ça s'est pas encore développé, donc à voir dans la communication. C'était l'idée de pouvoir effectivement cibler la métropole ou les pays francophones. Ça s'est pas encore développé. Par contre, moi, ça m'a laissé la liberté de travailler quand je voyageais et donc de pas m'arrêter, de faire des visios. Donc pour moi, sachant que je prends beaucoup de vacances pour voyager, c'est aussi cet intérêt-là, quoi.
Ok, ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cet aspect-là, mais donc de la mobilité du formateur en lui-même, en fait, ça ne t'impose pas toi d'être fixé.
Ouais. Ouais. Donc moi, ça m'a apporté, je dirais, beaucoup plus d'adaptabilité.
Ouais, ouais.
Et je pense que cette adaptabilité, quand on est formateur indépendant, elle est hyper importante. Voilà, une personne qui s'est inscrite à une formation, qui ne peut pas venir au début, bah c'est compliqué, c'est quand même, ça peut être une grosse perte.
Ouais.
Surtout, moi, j'ai fait des formations, si je les duplique 2-3 fois, c'est le maximum dans l'année.
Ouais.
Donc, la personne, elle peut ne pas pouvoir attendre 2-3 mois de plus. Mm. Donc, plus de souplesse aussi. Et moi, aussi, plus de... Là, c'est pas directement en business, mais en qualité de vie, en fait, d'avoir moins de déplacements.
Ouais. Ok, et alors moi j'avais une question par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le web. On trouve une infinité de contenus, de formations même gratuites. Et donc je me demandais, ben, quand tu viens avec une formation en ligne payante, est-ce que, comment est-ce que toi tu te positionnes et comment est-ce que tu ressens les choses? Est-ce que tu as l'impression que c'est du coup beaucoup plus difficile de vendre ta formation payante par rapport à tout ce qui existe comme contenu gratuit? Ou bien tu penses que ça n'a pas beaucoup d'influence, que ce contenu-là, ben, finalement, il est là, mais que toi tu viens avec davantage de qualité, d'expertise? Et donc voilà, comment est-ce que tu sens un peu les choses à ce niveau-là?
Alors je pense que le contenu gratuit... Il perturbe l'offre, effectivement. Donc, c'est peut-être la question de la communication qui prend beaucoup plus. Enfin, pour moi, dans la formation, la communication, ces dernières années, devient de plus en plus importante. En même temps, peut-être que ça a développé aussi, avec le confinement, mais ses capacités de se former à distance. C'est-à-dire que ça devient quand même... moi, ça fait plus de 10 ans que je suis sur l'île. on était vraiment très loin que ce soit une modalité de formation acceptée par tous, quoi. Donc là, ça devient beaucoup plus le cas. Par contre, d'un autre côté, ça a fait baisser un peu le vécu de qualité. C'est-à-dire que c'est parfois difficile de faire changer les représentations des personnes en disant « si, si, on peut avoir une formation interactive avec une dynamique de groupe, mmh. avec une vraie qualité sur de la formation à distance ». Donc ça, je pense que ça peut être délétère en fait pour mmh. Une offre de qualité à distance. Souvent, moi, ce qui se passe, là, je vois mes clients, et que ce soit en formation présentielle ou à distance, viennent parce qu'ils ont entendu parler de moi. Donc, mmh. c'est sûr que ça réduit la cible, et c'est certainement pour ça que j'ai pas de demande en métropole ou quoi, parce que, alors, mes formations, elles sont pas éligibles au CPF. Donc, les personnes qui veulent se former, mais sans avoir peut-être un besoin bien précis de savoir quel type de formation ils veulent, ils vont choisir une formation qui est gratuite ou éligible au CPF. Et du coup, mon public, c'est des personnes qui savent qu'elles veulent se former, donc avec peut-être mon état d'esprit. Pour moi, c'est ce que je mets en avant, c'est la conception pédagogique, c'est la pédagogie active, la psychologie positive aussi. Donc, c'est ça qui va attirer peut-être un public particulier. Donc oui, il y a une perte en termes de cible. Je ne sais pas si c'est lié que au contenu gratuit. Mais après, c'est aussi un gain en qualité d'échange.
Mmh. Ok. Alors, tu as dû... Bon, toi, tu viens du numérique à la base. Donc, ça a été peut-être un peu plus intuitif quand il a fallu utiliser le numérique dans, dans tes formations. Mais quelles sont les principales compétences à acquérir en tant que formateur pour passer au numérique, en fait?
Alors, je pense qu'il y a besoin parfois de reconstruire des fondations pour être à l'aise. Et dans ces fondations, c'est beaucoup lié aux freins qu'on peut avoir, aux réticences. Parce que je crois que dans beaucoup de domaines, on n'a pas été formé au numérique. Il a fallu l'utiliser. On a eu des formations de ci, de là, à des logiciels, comme je disais tout à l'heure. Et donc, il y a beaucoup de formateurs, je pense, qui ont été aussi en souffrance parce qu'ils n'avaient pas ce socle solide. Donc, je pense que ça peut être à restaurer. Moi, je crois plutôt à des formations de type agilité numérique qui ne sont pas encore trop développées, mais voilà, de reconstruire des fondations solides parce que quand on l'utilise avec des stagiaires, on a besoin de se sentir assez sûr de certaines choses. Et ensuite, soit repasser, mais d'avoir bien conscience que moi, ce que je dis aux formateurs, c'est que votre métier, vous le connaissez. Et il ne change pas du tout au tout en passant au distanciel. Certains formateurs peut-être manquent d'outils en termes de conception pédagogique et de pédagogie active. Et donc, sans ça, on va aller vers peut-être une transposition trop littérale d'une formation de type PowerPoint. Une formation PowerPoint, ça peut passer quand on est un bon orateur, mais à distance, ça ne passe plus du tout. En fait, le distanciel va être beaucoup plus exigeant en termes de bonne pratique pédagogique. Donc, ce n'est pas différent, mais il faut vraiment respecter. Donc, ça peut être aussi repassé par un peu de conception pédagogique, de scénarisation, orienté vers du distanciel et ensuite avoir, donc, selon ce qu'on veut faire, est-ce que si on veut faire vraiment que du distanciel ou si on veut faire un peu de complément au présentiel, on a des outils différents pour que la formation en distanciel soit prise en charge par les OPCO et offre aussi vraiment un environnement, il faut partir sur une plateforme de formation à distance.
Ok, et justement, est-ce que dans tes secrets de fabrication, quels sont les outils? Est-ce que tu peux donner quelques noms d'outils s'il y a des formateurs qui écoutent ce podcast, qui pourraient utiliser pour démarrer facilement?
Alors moi, les outils, je trouve les plus faciles, c'est sorti l'année dernière, c'est un site qui s'appelle La Digital, ladigital.dev, où on va trouver un digipad, donc c'est un mur de post-it. Avec ce mur de post-it, on peut faire énormément de choses. Donc pour moi, ça serait un des premiers outils à présenter parce qu'on peut mettre des supports à distance, mais on peut aussi faire du travail collaboratif et on peut avoir plein de jeux en fait à partir de ce digipad.
Juste, je t'interromps, je pense que ça a été mis en place par des professeurs.
C'est ça, c'est des enseignants de langue qui ont mis en place ça pour des enseignants de langue. Le principe, c'est de la simplicité des interfaces et que les données ne soient pas réutilisées. C'est libre de droit, donc c'est accessible aussi gratuitement.
Et cerise sur le gâteau, c'est stocké sur un cloud responsable.
Voilà.
Voilà, donc qui limite l'impact environnemental, comme c'est mon dada, je le rajoute.
Tout à fait.
Parce que je trouve que ça mérite d'être mentionné quand même, ouais.
Et il y a un autre outil dans ce site qui s'appelle Digistorm, qui va permettre d'avoir des quiz. Donc vraiment la base avec ces deux outils et de la conception pédagogique des principes d'activité, on peut faire beaucoup autant en complément de présentiel qu'en distanciel si on a une visio. Et il y a bien d'autres outils
bien sûr,
sur ça.
Oui.
Voilà.
Et alors en plateforme numérique?
Alors il existe énormément de plateformes numériques. Je pense qu'il n'y en a aucune qui soit parfaite. Mm-hmm. Moi, j'utilise Moodle, qui a quand même bien évolué depuis le temps que je l'utilise.
Ouais.
Pourquoi j'utilise Moodle? Parce que c'est utilisé beaucoup par les universitaires. Donc, il y a une très grosse communauté de par le monde. Et donc, c'est une plateforme solide qui évolue bien, qui est libre de droit aussi. Qui a développé une offre Moodle Cloud, donc qui est accessible maintenant par cet aspect-là aux formateurs indépendants. Je pense que, voilà, pour avoir testé différentes plateformes, toutes elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je crois qu'il faut vraiment dépasser pour les plateformes ce côté outil, se concentrer sur comment je peux le rendre le plus simple possible, le plus agréable, se concentrer sur la conception pédagogique. Et là, vraiment, moi, dans le retour d'expérience que j'ai du e-learning, c'est pas les outils les plus complexes qui ont le plus d'impact pédagogique. Et c'est là où il faut pas se tromper de travail, en fait, d'efforts à fournir.
Ouais. Et du coup, pour les formateurs qui voudraient aller plus loin, toi, tu proposes justement des formations. Je crois que tu as une formation qui s'appelle « Comment digitaliser ses formations », c'est ça?
Voilà.
Tu
Donc,
peux
comment
en dire un peu plus?
Digitaliser ses formations, ça permet vraiment d'être autonome, de monter son projet de digitalisation simplement. Donc, c'est accessible aux formateurs indépendants. L'idée, c'est de pouvoir comprendre quand même les enjeux du numérique, ce que ça modifie dans la formation. C'est peut-être pas autant qu'on imagine. Donc, vraiment de repartir de son métier de base et comment on l'adapte et d'aller jusqu'à la médiatisation et la mise en place de sa plateforme utilisée. Le but, c'est vraiment une formation action, de sortir de là avec un projet qui est démarré parce qu'on sait qu'on a aussi des contraintes de temps et de montrer que c'est accessible en fait à tout un chacun. Cette formation, elle peut aussi se suivre à distance.
C'est ce que j'avais demandé, oui.
Voilà, donc les modules, on peut même mixer. J'ai un parcours qui permet de... Voilà, j'ai un contenu, par exemple, j'ai une expérience, j'ai une expertise. Je voudrais créer des formations à distance. Et donc là, c'est carrément comment devenir formateur digital. Donc, avoir cette conception pédagogique, cette animation de groupe, cette compréhension des apprenants, et l'amener avec de la médiatisation à distance.
Ok, enfin, en tout cas moi je l'ai suivi au mois de juin dernier et clairement ça a apporté beaucoup de choses dans le développement de mes services, de ce que je pourrais proposer, ça m'a donné beaucoup d'idées, et effectivement je confirme que c'est une formation action qui te met tout de suite dans le bain et la preuve en est c'est que moi ça m'a permis de créer ma plateforme et aujourd'hui de proposer des contenus dessus, donc voilà. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que je n'ai pas seulement appris à utiliser une plateforme. Il y a des tas d'aspects pédagogiques derrière qui m'ont fait vraiment réfléchir sur la conception des formations. Donc ça, je trouve ça vraiment très chouette.
Ouais, l'idée, c'est de présenter qu'il y a quand même des spécificités au distanciel.
Ouais.
Donc ça me permet de reposer des bases de la vision que j'ai du métier de formateur en ayant ces petites adaptations distancielles.
Ouais.
et de montrer que c'est accessible en fait, ouais. Et qu'il n'y a pas besoin d'être un gros centre de formation pour proposer de la digitalisation, et qu'avec un système assez simple, on peut monter une formation de qualité, et ouais. Parfois même beaucoup plus de qualité que ce qu'on trouve sur le marché du e-learning.
Ouais. Bon, bah écoute, merci pour cet entretien, cette conversation sur l'information. Je trouve ça toujours passionnant.
Mais merci à toi.
Et tu veux ajouter quelque chose peut-être par rapport à ce qui a été dit?
Non, voilà. Bon, je pense qu'on a brossé déjà pas mal de choses. Ouais. Et bah, peut-être juste le message, c'est qu'on peut faire de la qualité avec du distanciel et que tout est une question de conception pédagogique, de réflexion à la base et d'adaptation en fait au public. Donc voilà, essayer d'éviter l'amalgame formation à distanciel égale visio où on ne parle pas, parce que c'est aussi la réalité de certaines de ces pratiques. C'est vraiment une question de qualité, et donc de choisir des prestataires de qualité qui réfléchissent vraiment l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique.
Ok, super. Bah, écoute, un tout grand merci encore. Et puis, bah, quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode sur comment utiliser autrement le numérique.
Si vous avez aimé cet épisode, qu'il vous a appris des choses ou fait avancer dans votre approche du numérique, n'hésitez pas à me laisser un avis. Je serai ravie également d'avoir vos retours tant sur la forme que sur les thématiques abordées. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mon blog www.junga.re/blog. À très vite pour un prochain épisode.